Bonjour, Aurore Berger.
Bonjour.
Le sommet européen qui a été entamé hier après-midi pour trouver un accord sur la nomination des nouveaux dirigeants de l'Union européenne n'est toujours pas terminé à l'heure où nous parlons. On devrait peut-être plutôt parler de désunion européenne, non, que d'union européenne.
Je crois que c'est plutôt une recomposition qui est en cours, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte absolument de ce qui s'est passé au moment des élections européennes, c'est-à-dire qu'on a demandé leur avis à l'ensemble des citoyens européens. Ils ont tranché, ils ont profondément changé les équilibres qui ont toujours existé entre le PPE et le PSE au sein du Parlement européen. Et donc, la Commission, les postes clés doivent aussi refléter la volonté des citoyens. Et donc, on doit en finir avec ce système qui visait à se faire des petits arrangements préalables.
Système mais là, les arrangements, ils ne sont plus préalables. Mais enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit en ce moment. Ça négocie très dur.
Oui.
Chacun défend ses intérêts politiques, ses intérêts nationaux aussi.
Les intérêts des Européens. Les intérêts des Européens, c'était pas que avant les élections européennes, il y ait un candidat qui soit arbitré préalablement par quelques chefs d'État. C'est justement tout ce que les citoyens européens ont souhaité combattre dans les messages très clairs qu'ils ont envoyés au moment des élections européennes. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, en général, les citoyens européens ne se sentaient pas particulièrement concernés par ces élections, considérant qu'elles étaient loin d'eux, considérant que la démocratie européenne était faible en son sein. Et donc, si les discussions durent, elles dureront, parce que il faut encore une fois que les différentes nominations sur les postes clés reflètent la volonté des citoyens européens.
Est-ce qu'il est important que la France obtienne l'un de ces postes clés ?
Moi, je ne suis pas arc-boutée à l'idée que la France particulièrement ait un poste clé. Moi, ce qui compte, c'est qu'on respecte la volonté des Français et la volonté des Européens sur l'équilibre des pouvoirs, sur la représentativité. Après, à partir du moment où on accepte d'intégrer un ensemble comme celui de l'Union européenne, si chacun ne vient que défendre l'intérêt de son propre pays, qui serait illustré, traduit par un poste clé obtenu, je pense qu'on n'arrive pas vraiment à faire aboutir l'idée européenne.
Est-ce que Nathalie Loiseau n'a pas réduit les chances que la France obtienne l'un de ses postes clés avec les propos peu aimables, on s'en souvient, sur un certain nombre de ses alliés européens ?
Déjà, on a au sein du Parlement européen obtenu des postes clés, que Pascal Canfin préside la commission en charge de l'environnement au sein du Parlement européen.
On parle des 5 grands postes.
Très bien, mais enfin, le Parlement européen, conseil, on l'oublie etc. peut-être, mais le Parlement européen a des prérogatives qui sont majeures au sein de l'Union européenne et au sein de l'architecture des pouvoirs européens, un pouvoir budgétaire notamment. On se plaint, ou certains en tout cas, attribuent à l'Union européenne régulièrement tous les malheurs pour dire à quel point justement elle est influente sur la législation qui est ensuite transposée au niveau national. Eh bien, le fait qu'on ait en l'occurrence un Français, mais surtout un écologiste convaincu qui soit à la tête de cette commission, je pense que c'est pas du tout anodin. Et c'est bien la démonstration que la délégation qui est la nôtre au sein du Parlement européen pèse pleinement.
Alors, vous parlez d'écologistes convaincus. Il y en a un autre, a priori, qui est très convaincu. C'est Nicolas Hulot, qui, dans le courant du week-end, a appelé à l'unité. C'est dans les colonnes de nos confrères de Ouest-France, à l'unité par-delà les clivages politiques pour affronter la guerre contre le dérèglement climatique. Il se dit prêt à apporter son soutien à un gouvernement, je le cite, qui ferait la démonstration qu'il veut véritablement faire rentrer l'écologie dans la modernité. Donc, visiblement, pour lui, ça n'est pas le cas du gouvernement. D'aujourd'hui.
On a une divergence d'approche avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot considère...
Mais il n'est pas le seul. Il y a le Haut Conseil pour le Climat, nommé par Emmanuel Macron, enfin mis en place par Emmanuel Macron.
Ce qui démontre son indépendance d'ailleurs.
Oui, mais qui a dit exactement la même chose la semaine dernière.
Non, mais moi je vois concrètement ce qu'on fait et comment on agit. Ça a été le cas encore la semaine dernière avec une loi qu'on a votée sur la question énergétique. Ça va être le cas dès septembre sur la question de la lutte contre le gaspillage, ce qui n'est pas du tout anodin. On a un continent de plastique qui se balade dans nos mers et la France, d'ailleurs, est la première émettrice de plastique en Méditerranée. Donc, le fait qu'on y mette un terme et qu'en plus, ça puisse créer de l'emploi, c'est tout l'enjeu de l'économie circulaire. Donc, ça veut dire que concrètement, clairement, on agit sur le quotidien. Après, moi, en effet, je considère que l'écologie ne doit pas peser sur celles et ceux qui sont les plus fragiles économiquement, qui déjà payent la double peine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, parfois, d'isoler leur logement, ils n'ont pas les moyens de changer leur voiture et en plus, ils sont sont punis. Et je pense que ça, c'est une mauvaise manière d'arriver à embarquer les citoyens français, européens, vers la transition énergétique et écologique. Cette transition, elle doit d'abord être celle de l'État, des administrations, elle doit être celle de l'accompagnement des citoyens, elle ne doit pas être celle de la punition. Et moi, ce que je regrette, c'est que Nicolas Hulot, en permanence, ne voit jamais ce qu'on fait, que ce soit notre majorité ou que ce soit d'ailleurs au sein de l'Union européenne, il voit toujours ce qui ne va pas assez loin selon lui. Eh bien, moi, je pense que pour embarquer les gens dans une transition, parce qu'elle est en effet nécessaire, mais parce qu'elle ne doit encore une fois pas peser sur les plus fragiles, eh bien, il faut se donner les moyens de cet accompagnement.
Nicolas Hulot a également décidé de se mobiliser contre le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. C'est un choix entre deux mondes, dit-il, entre deux avenirs. Ratifier le CETA favoriserait le moins-disant environnemental, sanitaire et social et pénaliserait encore un peu plus les agriculteurs en les exposant à toujours plus de concurrence internationale déloyale. C'est un réquisitoire très sévère contre un traité de libre-échange que défend Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs en place à titre provisoire, qui doit être ratifié courant juillet, et qu'Emmanuel Macron veut voir donc ratifier rapidement.
C'est un traité qui a été négocié pendant de nombreuses années, y compris d'ailleurs avec le président de la République. C'est un traité qui doit aussi être évalué, et on l'a toujours dit. C'est un traité sur lequel il y a eu beaucoup de fantasmes. Moi, je me souviens notamment du fantasme sur la partie de l'agriculture et sur l'importation, par exemple, de la viande aux OGM. Tout ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a des normes sanitaires qui sont respectées au sein des frontières européennes.
Donc, et Nicolas Hulot se trompe ou raconte des bobards.
Je ne dis pas qu'il raconte des bobards. Il est dans un combat où il considère que le libre-échange est l'ennemi de l'écologie. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'économie de marché, je crois que le libre-échange peut permettre aussi un mieux-disant écologique, peut permettre de faire progresser les choses en matière écologique. Je ne crois pas que l'économie dirigiste qu'un certain nombre de pays avaient adoptée ait permis un mieux-disant écologique, bien au contraire.
Et alors, autre traité européen avec les pays du Mercosur, celui que la Commission européenne a signé à quelques jours de la fin de son mandat, c'était une bonne idée, ça ?
Je pense que c'est une très mauvaise idée sur la forme déjà, parce que le fait qu'une commission sortante se permette au dernier moment, dans les dernières heures de sa présidence, de signer un traité alors qu'une nouvelle commission doit justement être nommée, alors qu'un nouveau Parlement européen a été élu, c'est vraiment de donner le sentiment que l'Union européenne, que celles et ceux qui encore aujourd'hui la dirigeaient, font fi de la démocratie européenne. Donc c'est pas tolérable que les choses puissent se passer comme ça. Et donc, il faudra évidemment qu'on voit comment il est possible de remettre la main sur ce traité. Il a été négocié pendant 20 ans, mais on ne peut pas avoir comme ça un trait de crayon final qui soit posé par des gens qui ne sont plus légitimes pour le faire.
Emmanuel Macron a tout de même parlé d'un bon accord, tout en se disant vigilant sur sa mise en œuvre.
Une grande vigilance, notamment sur les questions environnementales et sur les questions d'agriculture. C'est ce que le président de la République lui-même a rappelé.
Des militants écologistes aspergés de gaz lacrymogène, un peu comme on utiliserait une bombe insecticide contre une guêpe en été. C'était vendredi dernier à Paris. C'est des images qui choquent beaucoup. Il est vrai qu'il est difficile de ne pas l'être en les regardant, pour être honnête. Vous-même, vous trouvez que c'est une espèce de dérapage de la police ?
C'est des images qui sont troublantes et qui méritent qu'on comprenne dans quel cadre cela a été utilisé, quelle a été la chronologie des faits. Il y a une enquête qui a été ouverte et qui permettra donc d'établir concrètement ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'à minima, les images sont troublantes et c'est légitime qu'un certain nombre de Français aient pu en être émus.
Merci Aurore Berger.
Merci à vous.
Bonne journée.